Musique du monde. Laurence Aloua. Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
Bienvenue dans les musiques du monde avec le groupe Crimi qui chante sa Sicile des origines depuis 2 albums. Le groupe sera notre invité dans la session live dans une petite demi-heure. Et nous ouvrons avec la vie et l'œuvre de Robert Moog qui depuis sa banlieue du Queens à New York s'apprête à révolutionner la musique avec l'électronique. L'ingénieur est né en 1905 et il va inventer le synthétiseur. Des Beatles à Herbie Hancock, tout le monde va jouer sur des Moog. L'histoire est racontée par le pianiste Laurent Deville qui non seulement sort des albums mais publie aussi des livres, par exemple Thelonious Monk en 97 ou Les Fous du Son en 2016. Le musicien est venu avec le dessinateur Simplerman qui a collaboré à ce nouvel ouvrage intitulé Robert Moog et ses machines qui font bzoing. Bonsoir.
On peut considérer que c'est le premier morceau de disco ou...
Ah, de disco
Moi, je mettrais ça dans la disco, mais après...
Laurent de Wilde.
C'est pop. C'est... Enfin, je veux dire, il y a un
ouais,
côté...
Ouais, c'est pop, mais c'est pas très disco. C'est-à-dire, le disco, à la place du tambourin, c'est un pied de grosse caisse, quoi.
Oui, c'est grossier, c'est voilà. Simplifié.
Mais c'est vrai que ça, ça préfigure, en tout cas, c'est sûr.
Est-ce que ça fait plaisir à un musicien de parler sur de la musique, sur Popcorn?
Ah oui, le fait de parler pendant que la musique passe.
Ah, moi, ça ne me gêne pas. Ce que j'ai une confession à faire, c'est que ce morceau de Popcorn, c'est le premier morceau que j'ai entendu avec un casque stéréophonique sur les oreilles.
C'est quel âge?
Je devais avoir... 7 ans, je pense. C'était
donc
ma
les casques
sœur.
Stéréophoniques existaient.
Oui. Oui, c'était après
bonne
le
ambiance.
Moteur explosion. Et c'était bien après l'âge de fer. Et j'ai, découvert à la fois cette musique électronique stupéfiante et la stéréophonie en même temps, c'est-à-dire le fait de poser un appareil sur ses oreilles qui vous propulse dans un espace complètement différent. Là, je me retrouvais, je ne sais pas où, dans une espèce d'église avec une réverbe énorme et je roulais des yeux effrayés autour de moi. Je ne croyais pas. Pour moi, c'était la chambre de ma sœur et j'étais un petit peu angoissé parce qu'elle m'avait dit de ne pas y toucher et j'y touchais quand même. Bref, j'ai un fort lien affectif avec ce morceau.
Laurent de Wilde, vous êtes invité avec le dessinateur Samplerman, qui a un surnom de musicien, quasiment parce que les samples, c'est plus le musicien qui utilise ça plutôt que les auteurs, les dessinateurs de bande dessinée. Ensemble, vous avez sorti un ouvrage sur Robert, alors attention pour la prononciation, Moog ou Moog.
Alors lui, il disait Moog like Vogue.
Moog like Vogue. On va l'appeler Robert Moog alors. Alors Robert Moog, c'est un fabricant, c'est un ingénieur, c'est un chercheur qui est à l'origine des fameux Moog, c'est-à-dire ces synthétiseurs modulaires. Je sais que vous êtes un fou du son. Vous avez publié il n'y a pas très longtemps un livre, c'est Grasset, sauf erreur, sur les fous du son, sur les inventeurs géniaux, etc. Racontez-moi Robert Moog. Comment ce monsieur qui vit dans le Queens, qui va vivre après à la campagne avec sa famille, s'intéresse à l'électricité, au son, ce qu'on peut faire avec de la technique et comment ça va influencer par la suite, évidemment, de grands artistes.
Je pense que c'est le mélange d'une mère assez tyrannique et artiste frustrée et d'un père... un petit peu, bousculé par sa femme, passionné d'électronique. Et donc, le petit Bob passe son temps entre les cours de piano obligatoires avec sa mère qui lui hurle dessus, puis après des professeurs. Il aime pas ça du tout. Et la cave de son père, où il bricole des radios pendant le week-end. Et en fait, il présente ce trait assez rare chez les inventeurs, qui est qu'il est aussi brillant ingénieur que amoureux, vraiment profondément amoureux de la musique. Et c'est drôle parce qu'il va donc pousser ses recherches électroniques très loin dans la production de sons synthétiques et en décortiquant la façon dont un son est constitué, essayer de le reconstituer synthétiquement. Tout ça, on est très loin de la musique, on est vraiment dans l'acoustique. Mais très rapidement, il s'entoure de musiciens et de gens qui lui disent « Ah, ben tu pourrais plus faire ça, tu pourrais plus... Ah, et puis si tu rajoutais un clavier, et puis ah, si on mettait des boutons comme ci, comme ça. » Et à chaque fois, il écoute, il dit « Ah ouais, ce serait super. Ah ben ouais. » Et puis en plus, ça lui pose un problème. Alors quand on lui demande « Mais où est-ce que vous avez trouvé toutes ces idées ?» Il dit « Ben, vous savez, moi, c'était simple. Hein. Chaque semaine, il y avait un problème, alors il fallait trouver la solution.
» Simplement, comment vous êtes parti ? Vous êtes arrivé dans cette aventure avec Laurent de Wilde de parler, d'illustrer la vie de Robert... Allez, je dis Moog, pour tout le monde. Robert Moog.
Alors, j'ai été contacté par les éditeurs et ils m'ont présenté la collection Supersonic, une très belle collection
chez Philharmonia Édition
où les textes sont un peu poétiques, je dirais, et qui sont illustrés par des illustrateurs un petit peu indépendants qui font beaucoup de recherches, qui sont un petit peu pas tellement connu finalement.
Oui, pas tellement connu, c'est vrai. Et en fait, vous avez une manière de travailler qui rappelle un peu la manière de travailler des musiciens, vous faites des collages.
Je pense qu'il y a des points communs.
Oui.
Je travaille l'image comme certains travaillent le son, je pense.
Oui.
Il y a l'aspect matière qui m'intéresse, l'aspect découverte. En fait, les musiciens qui travaillent avec des machines électroniques peuvent avoir envie de son, mais en fait, surtout, ils sont les premiers auditeurs des sons qui sont produits par les machines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment totalement maîtriser la chose. Et c'est exactement pareil avec le collage, finalement, où on doit faire avec ce qu'on a. On fait une sélection, bien sûr, mais on n'a pas la totale maîtrise du résultat final, en fait.
Samplerman, d'où vient la matière première ? Vous avez des sites internet avec des dessins libres de droit, parce que ce sont des dessins des années 50, des comics, enfin des BD des années 50 américaines, en gros.
Oui,
40,
en fait,
50.
J'ai une espèce d'obsession pour les techniques d'impression antérieures au numérique, qui ont une espèce de charme que je ne trouve pas du tout dans les publications.
L'analogique, pareil.
Exactement. Et en fait,
Analogic Man.
Donc j'ai évidemment au fil du temps sur Internet, on trouvait de plus en plus d'images dans des résolutions de plus en plus qualitatives. Donc en fait, au bout d'un moment, c'était possible de les utiliser pour faire des collages. Et donc j'ai trouvé des sites Internet effectivement qui sont remplis de scans, donc de diverses qualités. Mais on peut toujours, on peut même travailler avec la mauvaise qualité, puisque de toute façon, cette technique antérieure d'impression sur du papier cheap, c'était plein de défauts. Et c'est ça aussi qui a du charme et qui a de la poésie et qui est attirant, en fait.
C'est Laurent de Wilde qui a choisi la programmation de cette émission pour parler du travail de Robert Moog. Alors après Hot Butter Popcorn qui était sorti en 72, vous avez choisi le Mahavishnu Orchestra avec le titre Birds of Fire. Et ça, c'est sorti en 73. Donc on reste dans les années 70. Hein, c'est là où le Moog était hyper à la mode. Dans ce morceau du Mahavishnu Orchestra, le Moog arrive pendant, avec les violons. Laurent de Wilde.
Alors, le Moog est soliste, hein, c'est un instrument de soliste. D'ailleurs, c'est monophonique, on peut jouer qu'une seule note à la fois.
Fender Rhodes s'en réjouit.
Absolument, mais en général, le setup classique à cette époque, dans les années 70, c'était le Fender Rhodes et posé dessus le mini Moog. Donc, c'est Ian Hammer, un de ces interprètes les plus aboutis, qui a vraiment tout de suite trouver des très beaux sons sur le Moog. Et ça se mélange très bien au son du violon électrique. Hein. Parfois, on a du mal à faire la différence entre le son du violon, le son du Moog, le son de la guitare, tout ça. C'est une espèce de chant à trois qui se tortille autour d'un fil électronique. Je trouve ça très, très émouvant. Et puis, j'avais 12 ans quand c'est sorti, quoi. C'était la plus belle musique du monde.
Alors, dans votre livre, Robert Moog, raconté par Laurent de Wilde, Wild et Samplerman, donc l'auteur et le dessinateur. Vous dites que l'un des musiciens, un des premiers musiciens à avoir eu vent de l'affaire, c'est Sun Ra, qui débarque. Où est-ce qu'il habitait, Robert Moog, avec sa famille?
Il habitait à Trumansburg.
C'est hyper connu sur la carte, c'est
non,
où ça?
Non, c'est Upstate New York, c'est sur le chemin du Canada, c'est perdu dans les forêts, c'est quelqu'un qui est, il est très, comment dire, il aime beaucoup la nature, Robert Moog.
Et Sun Ra aussi, mais on va plus vers les étoiles, donc absolument. Il doit arriver en pharaon.
Tout le monde est absolument stupéfait de voir débarquer, parce qu'en plus, lui, il arrivait avec tout son orchestre. Et il est reparti avec un modèle B, je crois. L'instrument fini, c'est le modèle D.
Il ne l'a pas payé.
Et il ne l'a jamais payé. Et Moog aurait préféré mourir plutôt que de lui demander, parce que justement, une des caractéristiques de Moog, c'est qu'il avait une admiration exceptionnelle pour tous ces grands artistes qui avaient la même admiration pour lui. Et finalement, c'est un cycle de réciprocité qui leur a tous profité.
Oui. Qui sont les autres musiciens qui se sont jetés sur cet instrument? Parce qu'en fait, si on comprend bien l'histoire, c'est un inventeur qui va créer la musique du futur. C'est un peu avec Moog que se fondent les bases de la musique électronique. Les Jean-Michel Jarre et compagnie lui doivent énormément à ce monsieur.
Ah bah oui. C'est pas le premier. Hein. Comment dire, comme d'habitude, hein. Quand on gratte un petit peu derrière une innovation, on voit toujours quelqu'un d'autre d'avant, etc. On peut toujours remonter la chaîne jusqu'à l'âge des cavernes. Mais je pense que l'importance fondamentale du travail de Moog, c'est qu'il introduit le principe de boucle dans la musique occidentale. C'est-à-dire après, ok, on fait marcher les filtres et tout ça. Mais ça, l'idée qu'une phrase est répétée et répétée et répétée et répétée et que ça induit une transe, c'était un concept qui était complètement absent de la musique occidentale jusqu'à présent.
Je vous propose d'écouter un titre sur lequel vous avez sûrement dansé, Laurent, et vous aussi, Samplerman, I Feel Peut-être. Love. De Donna Summer, mais vous n'avez pas pu échapper aux enfers du disco. C'est là qu'on apprend que Laurent de Wilde a fréquenté assidûment le Club 54 à New York quand il avait 8 ans. Donna Summer, vous avez frotté beaucoup sur I Feel Love, monsieur de Wilde.
Oh yeah, Giorgio Moroder, et ces petits Moog qui font des boucles qu'on aime bien. Mais ouais, ça c'est génial. Alors là, effectivement, à partir de ce moment-là, la boucle est installée dans l'imaginaire musical mondial. Le son du synthé est devenu, comme nous disait Samplerman hors antenne, une phrase de, c'était Brian Eno, c'est ça? Il nous disait que Brian Eno disait que c'était l'accouplement entre
la
quintessence de la machine et de la sensualité, quoi. Et c'est vrai, c'est imparable, c'est le mélange des deux mondes sur lequel on vit encore. Hein. On est vraiment, on est des transhumanistes sans le savoir. Hein. Nous sommes imprégnés de machines qui nous aident à faire notre musique et nous sentir bien.
Alors, vous n'étiez qu'une hypothèse à l'époque, je suppose, monsieur Samplerman. Mais sachez qu'en 73, en Virginie, une scène s'est écroulée à cause de tous les Moog de monsieur Robert sur la scène d'un concert d'Emerson, Lake & Palmer. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, ça ressemblait quand même à des gros frigos ou des machines à laver. Et je crois que c'est la raison pour laquelle les Rolling Stones n'ont jamais utilisé ces appareils. C'était parce que c'était trop lourd, que c'était moche et que ça répondait pas aux critères d'un vrai groupe de rock. Mick Jagger avait milité pour Moog, mais pas les autres.
Eh ouais, exactement. Alors, en fait, ce qui a sauvé Moog, c'est d'inventer le mini Moog, parce qu'il a basculé à ce moment-là dans un instrument commercialisable qu'on pouvait trouver dans tous les magasins de musique. C'était pas compliqué, on l'allumait, ça faisait tout de suite un son. Avant, c'était des objets qu'on commandait à la pièce, c'est-à-dire c'est modulaire, ça veut dire que c'est différents modules, c'est-à-dire qu'il y en a un qui filtre le son, il y a un autre qui l'amplifie, il y a un oscillateur, tout ça, puis on branche. Et c'est très compliqué, ça met un certain temps avant de produire un son. Tandis que, en fait, c'est un assistant Bill Hensatt de Moog qui lui a dit « Oh, ben, tu sais, peut-être on préfère un truc un peu plus simple et déjà pré-patché plutôt que de s'embêter à mettre toujours les patch cords dans les trous, etc. On ferait des soudures à la place et puis comme ça, ça ferait des raccourcis, on aurait plus vite du son. Ouais, vas-y, fais-le si ça t'amuse. » Et c'est là que c'est un cassage de baraque. Tout le monde en veut, c'est fabuleux. Pour le pauvre Bob Moog, ça correspond exactement au moment où il fait faillite.
Parce 70.
Il a plus de sous et il est obligé de vendre sa boîte avec son fleuron magistral, le Moog, dont un financier avisé s'empare. Il vend très cher le nom de Moog à une marque d'orgue pas très bonne, qui du coup affiche le nom de Moog et met un petit clavier supplémentaire sur ses orgues de salon. Et en fait, c'est le début d'une longue traversée du désert pour Moog, qui a vendu sa boîte, qui en a pas retiré le bénéfice qu'il espérait, contrairement à son racheteur qui lui a fait la culbute 3 ou 4 fois. Il mettra presque toutes les années 70 à récupérer son nom, son activité, son indépendance.
Simplerman, quand on vous a proposé d'illustrer ce livre sur Robert Moog, vous avez écouté, enfin vous êtes un peu rencardé sur le personnage, ou alors vous avez laissé votre imagination galoper sans trop de références? Vous avez écouté de la musique avec ce type d'instrument, enfin les instruments inventés par ce monsieur?
Alors j'ai surtout lu le texte.
Et je m'en suis imprégné. C'est un bon début.
J'ai trouvé des éléments.
C'est un bon élève.
Pouvait se convertir en image.
Oui.
Et il y a des choses qui sont évidemment obsessionnelles un petit peu dans les appareils. C'est les boutons, les fils.
Vous en avez mis partout.
Et puis oui, j'en ai mis partout.
Vous avez mis de la nature aussi, des taureaux.
Alors ça c'est l'amour de la nature de Robert Moog qui doit transparaître même dans ses machines. Il y a quelque chose finalement de.
Mais ce que j'adore dans tes dessins, ça je te l'ai pas dit, c'est que justement, quand on regarde l'image, elle fait un son électronique, c'est-à-dire qu'on entend ding 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 ou joie. C'est un régal parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait je suis en train de lire un livre audio, quoi.
Et je dois rendre hommage à votre science de l'onomatopée, ce qui est quand même quelque chose qui existe chez des dessinateurs de bande dessinée comme Franquin par exemple, très très fort,
le grand maître,
avec le gaffophone.
Ron Tudieu.
Mais les sons du gaffophone qui sont traduits visuellement.
Absolument.
Donc j'ai essayé de traduire le Zwing en illustration.
Tu veux me leur faire une cadeau dessus?
Zwing.
Oh, Simplerman.
Et donc, les boutons, les ondes. Alors moi, je travaille beaucoup avec la symétrie, la répétition. Donc on retrouve la boucle, finalement, le loop. Et voilà, encore un point commun.
Bon, bah, puisque c'est comme ça, on se tire en Allemagne. Kraftwerk. Kraftwerk avec le titre Autobahn qui était sorti en 1974. Alors on évoquait évidemment les musiques synthétiques. Vous avez parlé d'un autre groupe, Can. Holger Czukay, qui était un monsieur absolument admirable. Alors ça, c'est sorti en 1974, et vous me disiez que krautrock, c'est comme si on parlait de choucroc. Racontez-moi.
Camembrock. Cassoulrock.
Ou Roquefort. Ben, très, très, très bien. Voilà, c'est noté. Alors, pour des gens comme Kraftwerk, évidemment, les inventions de Robert Moog, on va l'appeler Moog, parce que franchement, c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous, sont des éléments quasiment indispensables dans leur travail. Je pense à Kraftwerk. Tout à l'heure, j'ai mentionné Jean-Michel Jarre. On a aussi Tangerine Dream. Enfin, c'est toute cette époque-là, quoi, qui c'est, l'instrument a permis à ces auteurs d'avoir un style qui leur est propre. Mais c'est grâce à l'instrument. C'est pas eux qui ont cherché l'instrument qui correspondait à ce qu'ils avaient envie de faire. C'est parce que l'instrument existe qu'on fait.
L'organe qui crée la fonction ou la fonction qui crée l'organe. Alors, dans le cas de Moog, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que beaucoup de musiciens gravitent autour de lui et en fait dirigent l'évolution de sa pensée technique. Et donc, il y a un véritable feedback permanent entre les besoins du musicien, les envies de l'ingénieur. Et Wendy Carlos, quand elle fait le Switch on Bach, hein, reprise de Jean-Sébastien Bach au Moog, en multipiste, en se réenregistrant...
Que Columbia Classic a accepté en se bouchant les nez.
Voilà.
Qui a été un carton.
Et oui.
Faut revenir sur la carrière de Wendy Carlos, qui est une pionnière dans tous les domaines. C'est une artiste transgenre. Je dis ça parce qu'à cette époque-là, ça ne devait pas être facile. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus simple. Mais là, franchement, on est passé de Walter à Wendy. J'ai donné le dead name, mais ce n'est vraiment pas gentil. Donc, Wendy Carlos est la première vraiment à s'être servie de l'invention de Robert Moog.
Absolument. Et c'est elle qui va... en fait, exiger de Moog plusieurs perfectionnements techniques qui vont l'aider dans son projet. Et c'est vrai que la déflagration de Switch on Bach la placera vraiment au premier plan de la création musicale, à un moment où, effectivement, elle est en train de changer de genre, ce qui est quand même pas du tout facile.
On est dans les années 50-60, quoi.
On est dans les années 60-68. Ouais. C'est une artiste qui va donc travailler juste après pour réalisateur
Stanley Kubrick,
Orange Mécanique. Oui. Voilà. Elle fera après la musique de Tron. C'est une artiste absolument incroyable qui refusera toute publicité, qui va faire très peu d'apparitions publiques, qui se pose à la fois comme compositrice de musique de film, à l'époque c'était quasiment inexistant, innovatrice technologique, elle jouait de ses synthés vraiment, et pour savoir les maîtriser, c'était des sacrées bécanes, et en plus une artiste de premier plan à côté de laquelle les autres artistes engagés étaient finalement de la petite bière, quoi. C'est une véritable héroïne de cette musique.
Alors on va terminer cette émission avec un dernier extrait de la programmation que vous nous avez proposé, que vous avez gentiment fait. On va finir avec Al Blaine. Alors c'est bien que vous parliez de jazz et de grands noms qui ont marqué le XXe siècle, parce qu'Al Blaine, c'est un batteur qui a travaillé avec les Beach Boys, avec Simon & Garfunkel, Elvis Presley, les Ronettes, Phil Spector. Là, j'arrête.
C'est un énorme requin de studio.
C'est un gros requin, gros requin. Et alors il fait un album particulier avec un certain Paul-Henri Beaver qui lui aime les Moog. Je vous laisse le présenter, Laurent.
Beaver de Beaver & Krause, une autre association très fertile. Donc là, on est en Californie. Hein. C'est une utilisation très psychédélique. Il y a beaucoup de recherches. C'est très intéressant. D'ailleurs, Bob Moog a son pendant qui s'appelle Don Buchla en Californie, qui est beaucoup plus freestyle, qui est très hippie et qui, jusqu'à 70 ans, dormait dans un hamac sous l'auvent de son atelier.
Avec beaucoup de produits.
Voilà. Et donc, c'était une époque où on essayait énormément de choses. Ce que nous allons entendre, c'est une expérimentation de l'époque qui, je trouve, aujourd'hui, sonne encore très moderne.
C'est un album en 12 titres chaque titre correspond à un des mois de l'année. Vous avez choisi le Love in December. Une grande déclaration de Laurent de Wilde à Simplement Mal. Peut-être que je fais un raccourci. Mais je trouve, messieurs, que vous allez très, très bien ensemble. Et on remercie Robert Moog, qui, lui, s'est envolé dans d'autres sphères qui ressemblent peut-être à vos dessins, on n'en sait rien, en 2005, après avoir succombé à une tumeur au cerveau. C'est sur ces paroles d'une beauté qui ne vous aura pas échappé. Oui, c'est bien de finir avec la mort, je trouve.
Bon, alors moi, je voudrais finir en remerciant notre éditrice Sabrina Valli, qui nous a mis ensemble, Simplement Man et moi-même. C'était vraiment un mariage arrangé et aveugle, quoi. Et je suis comblé.
Marié au premier coup de crayon. Je vais en faire une émission. Merci, messieurs. Merci infiniment.
Merci.
musique du monde, la session live.
Ah, il y a du café qui se prépare, il y a une session live aussi. On reçoit le groupe Crimi. Crimi, c'est le projet du saxophoniste Julien Le Suisse, qui a longtemps tourné avec Mazalda et Sofiane Saïdi. Du rail, du rail, du rail. Et puis Julien s'est souvenu que sa famille venait de Sicile. Il a commencé à collecter les trésors de l'île et du sud de l'Italie. Il sort un deuxième album, Scuro Cauru, qui évoque autant Palerme qu'Oran. Alors Crimi, c'est Julien Le Suisse au chant et à l'iwaï, Brice Berrer à la basse, Damien Bernard à la batterie et Cyril Moulas à la guitare. Ils vont faire un mini-concert, 3 titres. On va parler un petit peu, mais pas trop. Giannina, Asira et Noti Rufiana. Allez, on y va.
Giannina, 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 un borraccio dolorido, aggiungerò la gela. So che nati spin quanto toce la solare quanto toce lo do cuore c'è una nascenera mo è stracenera per quanto t'avo la dolce le passi so che gioca sciuta. Ho mai stato da freda, lo fa correre già non credo, la cenare via, tutte le guaie lo sottore, e con le pagine preziose, la collana ne facesse. Ancora
sur RFI dans la session live.
Musique du monde. La session live.
Crimi avec le titre Giannine, qui est extrait du tout nouvel album Skourou Kaourou. C'est comme ça qu'on dit Obscur Show, monsieur le Suisse ?
Skourou Kaourou.
Oh, j'adore. Vous devriez faire de la radio. Moi, en revanche, je ne suis pas très douée au saxophone. Donc, il y avait Brice Berrer à la basse, Damien Bernard à la batterie, Cyril Moulas à la guitare et Julien Le Suisse au chant. Et avec un drôle d'appareil qui s'appelle EY, qui veut dire Electronic Wind Instrument, serait-ce un saxophone synthétiseur ?
Ouais, exactement. Avec un son de gaz bas. Avec le gazba, la gazba...
La flûte.
La flûte, c'est un son fantasmé de la gazba, quoi.
Oui, et alors, c'est la première fois que je vois cet instrument, c'est très courant ?
Non, c'est pas courant, mais aucun saxophoniste veut en jouer. Non, c'est ça fait longtemps que ça existe, c'est arrivé en 1980, donc ça fait 40 ans. Et aucun saxophoniste veut jouer de ce truc, et j'ai aucune idée de pourquoi. Imagine si aucun guitariste avait voulu jouer de la guitare électrique, aucun pianiste avait voulu jouer du synthé. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, à chaque concert, tout le monde dit « Mais j'ai jamais vu ce truc, c'est nouveau, mais non, c'est pas nouveau. »
Non, peut-être que je sais pas, c'est la forme. Je croyais que vous aviez un petit cabas à côté de vous. Puis non, c'est un instrument, c'est donc le fameux EWI. Julien Le Suisse, on parle de Crimi, c'est un groupe que vous avez mis en place avec vos musiciens aux alentours de 2018-2019, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais. À ce moment-là, vous tourniez beaucoup avec Mazalda et avec Sofiane Saïdi. À partir de quel moment vous vous dites « Je monte un groupe et puis je vais remettre en avant la Sicile qui a donné le jour à mes ancêtres
hein ?» Bon, ça,
résumé des épisodes précédents. Alors,
on a essayé avec Cyril Moulas, qui joue la guitare là, on a essayé de... Moi, j'ai toujours chanté des chansons du sud de l'Italie, fantasmé là-dessus. Et aussi, notamment, on est des gros fans de musique napolitaine.
Oh,
de chansons, ouais, de cette époque-là, des chansons classiques, mais aussi de ce qui s'est passé après, de musique plus... Chansons de la Malavita, les trucs du néo-mélodico. C'était vraiment un fantasme depuis longtemps. Pour faire un groupe de chansons napolitaines plus obscures que Sole Mio. Mais déjà avec quand même cette idée de les réarranger avec vraiment, sans respecter des vieilles formes, quoi. Et la rencontre avec Cheb Lagdar et Sofiane Saïdi, moi, elle m'avait appris ce truc-là, enfin, ma façon de voir la musique. Mais dans le rail, il y a vraiment un truc très fort d'avoir le droit de prendre tout ce qui est venu avant et de redire de là où on en est, nous, de redire, de prendre pour Chebraled et tout ça, de reprendre des vieilles chansons de Limiti et de décrire avec cette chanson à partir de ce qu'elle a raconté, mais de là où nous on est, la base du rail, quoi, et de la signer et de dire mais c'est ma chanson et de la changer tellement que des fois elle se reconnaît pas, ou bien si elle se reconnaît, mais ce que ça raconte c'est autre chose, la rythmique elle est différente. Enfin, c'est vraiment le truc à l'envers de la propriété intellectuelle. On peut se servir, pas pour s'enrichir, on peut se servir parce que on peut s'exprimer avec ces trucs là en tout cas avec Cyril, on avait essayé de faire ce groupe sur la chanson napolitaine. Et je me suis rendu compte, moi, j'avais pas une voix incroyable pour la chanson napolitaine. Enfin, j'aime tellement les chanteurs napolitains, il y a tellement une technique de ça que voilà. Et petit à petit, avec ce fantasme aussi du rail, et pareil, cette frustration de pas savoir parler arabe, parce que je suis dégoûté de ça. Et du coup, le sicilien, par contre, sonnait dans mon fantasme, parce que moi, je l'ai jamais parlé. J'ai pas grandi là-bas, j'ai de la famille qui vient de là-bas, mais c'est tout. Je l'ai entendu beaucoup en France. Et en tout cas, le sicilien dans mon fantasme, il pouvait sonner comme quand Sofiane chante. On pouvait répéter des phrases comme il y a dans le rail là, pendant longtemps. Et, enfin, ça marchait avec le fantasme que j'avais de chanter. En tout cas, moi, ce qui m'a tué dans le rail, parce que j'avais... moi, je suis fan absolu de Rosa Balistrelli. C'est une des rares siciliennes à avoir été enregistrée. Ce que je veux dire, il y a une production derrière elle. Et en fait, en Sicile, ça a toujours tellement été la dèche qu'il n'y avait même pas un studio pour enregistrer tous les incroyables chanteurs qu'il y a eu, et toujours pas d'ailleurs.
Mais vous
pas.
Lui avez rendu hommage sur le premier album
grave,
de Crimi.
Dans les textes, ce que je comprends de Rosa Balistrelli, c'est y a un truc lié à Rimiti, mais pas dans le sens d'aller provoquer ou alors de parler des nuits de teuf ou je sais pas quoi, mais par contre un truc par rapport à la réalité et la réalité qui en deux secondes peut devenir un truc de rêve et un truc avec des monstres qui viennent, avec d'un coup on a une autre idée, il y a des choses qui apparaissent comme ça à partir d'une réalité ultra crue. Il y a quelque chose, moi j'adore, d'une poésie très crue. Pas une poésie avec des grands mots et ni avec des grandes idées, mais qui est quand même une poésie avec une espèce de vision immense comme ça, très profonde, mais en utilisant du matos très réel, quoi.
Le répertoire de cet album, c'est toute votre écriture ou il y a des titres revisités ?
Il y a une chanson, une vieille chanson sicilienne antique, quoi, mais chantée par Rosa Balistrelli, qui est « Il fuoco di la paglia », le feu de paille. Et sinon, les autres, c'est mes chansons.
Ça y est, donc ça y est, vous êtes lancé. Maintenant, vous êtes l'auteur, compositeur de Crimi.
C'est vrai que dans le premier disque, dans Luce Guai, il y avait ce que je disais tout à l'heure, de prendre des vieilles chansons siciliennes et d'en faire quelque chose à nous, de maintenant. Oui. Mais même dans Luce Guai, il y a la moitié du disque comme ça. Et puis ce fantasme-là, il a vite disparu dans le sens où les chansons, elles venaient d'elles-mêmes sans aller piocher dans un autre répertoire. Elles venaient et ça semblait évident. Et dans celui-ci, encore plus. Quoi.
Vous évoquez souvent le mot fantasme.
Ça fait 2 ans que je me galère pour ces chansons avec fantasme, parce que je pense beaucoup au fantasme. En français, fantasme, il y a une idée d'imagination liée au désir, quand même, dans le fantasme un peu psychanalytique, quoi. Et il y a juste une notion de rêve, quoi.
De rêve, ouais.
Mais c'est quand même lié au désir. Le fantasme, c'est quelque chose qu'on fantasme, c'est un rêve qu'on veut. Et en italien, c'est un fantôme. Et dans les chansons, plein de fois, je voulais parler de fantasmes, mais chaque fois, je parlais de fantômes. Et en sicilien, surtout.
Vous avez encore de la famille qui parle le sicilien? Vous avez encore des gens présents qui sont encore sur terre?
En France, non, mais en Sicile, ouais.
Est-ce que cette partie de votre famille connaît votre travail au sein de Crimi?
Ouais, carrément.
Et alors?
Crimi, c'est quand même pas une musique très trad. C'est pas une musique très... C'est un truc qu'il faut rentrer dedans. Donc je pense qu'ils sont très contents d'imaginer. Je pense que ça pose question, pas que à la famille, hein, mais à plein de gens en Italie, de cette histoire d'immigration. Enfin, puis même moi, ça m'a posé question. Je savais pas que c'était ça qu'on faisait. Moi, je pensais juste triper, écrire des chansons et les jouer avec des potes. Et puis en fait, il y a aussi quand même par derrière un truc de... Il y a la moitié de la Sicile qui part chaque année et encore maintenant parce que c'est compliqué d'y vivre. Et la première génération, elle se planque dans les pays où elle est. Elle essaye de pas faire de vagues et de... comment on appelle ça, s'intégrer, quoi. Et par contre, celle d'après, ben, soit elle a oublié et puis les gens, ils s'appellent... En fait, Zemmour, c'est pas le premier à avoir inventé qu'il fallait changer nos prénoms pour faire style en les Français. Ben, dans ma famille, mes oncles, mon oncle Salva, il s'est appelé Sauveur, mon oncle Fedel, il s'est appelé Frédéric. Genre, ils ont essayé, puis bon, très vite.
De passer inaperçu, d'être
invisible. C'était pas ça le problème, je pense pas que c'était le prénom.
Mais vous verrez, Julien, dans votre prochaine vie, vous serez une femme et vous verrez que c'est très difficile d'être invisible.
En tout cas, il y a une histoire d'émigration qui est malgré nous. Moi, j'ai pas décidé qu'on allait parler de ça, je vais même. C'est simplement que, et je pense que ça interroge aussi les Italiens, et c'est pour ça qu'il se passe un truc en Italie en ce moment, d'imaginer, ah mais oui, ça fait 50 ans que les gens, ou 100 ans que les gens y partent, et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils ont totalement éblié? Est-ce que vu que c'est l'Europe, tout est pareil, on parle tous la même langue? Ben non, en fait, pas du tout, et je pense que c'est surtout ça qui questionne.
Les deux titres que vous allez jouer avec Brice Berrer, Damien Bernard, Cyril Moulas et vous, Julien, vont être Asira et Noteru Fiana. Vous voulez dire un mot? Quand je dis un mot, évidemment, c'est une phrase, éventuellement toute une pensée autour de ces deux titres.
Asira et Noteru Fiana. Mais comme presque tous les chansons de ce disque, et on l'a compris une fois qu'on l'avait enregistré, c'est des chansons de traversée de la nuit, de plein de façons différentes, de façon marrante, de façon un peu cauchemardesque, de façon d'amour compliqué. Asira, c'est vraiment un amour compliqué. Et pareil, de fantasmes amoureux, mais ultra jaloux.
Vous avez trop longtemps côtoyé Sofiane Saïdi, je crois. c'est un homme de nuit.
Ça, c'est sûr. Il me manque. Je sens que je l'ai trop longtemps côtoyé, mais il me manque quand même.
Mais vous êtes un homme de nuit, vous préférez la nuit au jour?
Non, je préfère pas la nuit au jour, pas du tout.
Non?
Non, mais par contre, la nuit, elle a vraiment un sens. Et par exemple, là, en ce moment, c'était vraiment l'évidence de chanter la nuit. Non, parce que... Petit à petit, surtout avec la vie qu'on mène, et on a vraiment la chance de la mener, celle-ci, pour nous, c'est pas différent, c'est très différent le jour et la nuit. Mais par contre, justement, ces fantasmes, ces images, ces imaginations, on n'est pas obligé de les taire le matin, quoi. Elles peuvent continuer, on a la chance d'avoir le droit de les écrire et de les chanter. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec le jour, quoi.
Et Notte Rufiana, évidemment, reste.
Notte Rufiana, la Rufiana, c'est comme. En français, je crois que ça existe, Rufian, non? C'est un vieux mot
brigand,
pour dire.
Rufian.
C'est entre brigand et macro, quoi. Ouais. C'est vraiment entre les deux. Et Rufiana, c'est pareil en sicilien, mais c'est... Je crois pas que ce soit has-been, on peut encore dire, hein, mais lui c'est un Rufiano, c'est vraiment
c'est
quelqu'un à qui
Mac.
On peut pas se fier, quoi.
Ah d'accord.
La Notte Rufiana, c'est la nuit qui nous empêche de dormir, mais qui nous file pas des pensées super à la place, quoi. Non seulement on dort pas, mais en plus on tourne en rond et c'est l'horreur, elle nous a piqué un truc.
Ce sera la fin de cette émission, une conclusion, beauté qui n'aura échappé à personne. Julien Le Suisse, merci, je vous laisse rejoindre Cyril
merci
Moulas,
beaucoup.
Damien Bernard et Brice Berrer pour interpréter Asira. Y no te rufiana.
Y será cuando me llega camarado. O me da y arrata como ya esté. Como lo domo, no faz trojo cuando me llegue. Modo no sa jugar, no te sé yo. Yeah. Volese, yo no la volese. Yeah. Cote, yo no la. Yo no. Si re volese, cote. Vola, o re regalo. Le strazia nove e le gaggia con le agi pesci regi che ne voro e a casa torno nel mio sogno torno e sciodo per tamo giare noi e noi e sai
lasciare noi or noi un suoi.
Respira lo suo cuore,
Sur RFI, les Naughty Rufianas sont plus belles que vos jours au son de Jérémy Bessé, Mathias Stella. Merci.